Nous poursuivons notre réflexion sur l'Eucharistie après l'avoir y avoir réfléchi comme mystère de la foi. C'était la première séance. Comme notre nourriture, c'était la deuxième séance. Nous considérons aujourd'hui l'Eucharistie comme sacrement de la charité.
Oui, c'est
Ce que le chanoine allemand a approfondi dans les conférences précédentes, c'est le fait que l'esprit humain se nourrissait de Dieu. Et se nourrir de Dieu, c'est une manière de parler, de définir la contemplation. Ce qu'il va s'efforcer de montrer aujourd'hui, c'est que la contemplation est le plus haut exercice de la charité. Et donc que la participation active à l'Eucharistie est l'acte le plus haut d'amour de charité. Ce dont il va nous parler aujourd'hui, je crois, est tout à fait décisif dans notre compréhension de la foi, dans notre vie chrétienne. Je crois aussi que c'est décisif, je veux dire, pour notre association, parce que au fond, c'est sa première raison d'être en s'attachant au texte de philosophes comme Jacques de Montléon ou de philosophes théologiens comme Daniel Joseph Lallemand, cette conviction fondamentale que la finalité, le but de la vie humaine est celui de la contemplation. On ne contemple pas pour autre chose que pour contempler finalement. On dit couramment que il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Ben là, c'est pas tout à fait juste pour la vie spirituelle. C'est le plaisir de se nourrir ensemble de Dieu, le plaisir du banquet dont Jésus nous parle dans le royaume, qui est notre et la fin de notre vie humaine, c'est notre vocation. Et cela nous dit donc ce que c'est que d'être chrétien, et ça nous dit aussi ce que c'est qu'être humain. Et le chanoine allemand y insiste dans le texte que vous avez qu'on a mis à votre disposition, que vous avez peut-être eu le temps de lire. Il y a urgence à rappeler cette finalité contemplative de la vie humaine. Et il le fait de manière, comment dire, tragique. On pourrait même, si on y mettait un peu de pathos, de sentiment, trouver quelque chose d'excessif. Il y a donc urgence pour le chanoine allemand à rappeler que la finalité de la vie humaine est contemplative. Il s'agit de réorienter vers notre véritable destinée, notre destinée d'homme et d'homme sauvé par le Christ. Et ce qui peut nous en détourner, c'est une mauvaise compréhension de la charité, réduite au fait de servir son prochain. Servir le prochain sans trop savoir quel but on vise dans ce service. En citant les mots mêmes du chanoine allemand, réduire la notion de charité à un service des hommes qui d'ailleurs ne sait pas quel bien final il veut les aider à atteindre. Ce qui est dit ici sans jargon, hein, c'est une affirmation assez massive qui peut nous surprendre, ce serait bien. Hein, est-ce que, quel est le but de notre vie humaine? Et pourquoi dire que le but de notre vie humaine, ça n'est pas de servir les autres? De servir les autres sans d'ailleurs trop savoir quel but on se donne quand on est à leur service. Pourquoi dire au contraire que le but de notre vie humaine, ça doit être de contempler et de contempler Dieu? Le comprendre, c'est une question décisive aux yeux du chanoine allemand. Au fond, il s'agit de comprendre ce qu'est l'amour de charité. Ce qui peut être aussi un peu surprenant pour nous, c'est que nous sommes chrétiens, que pour nous Dieu est amour, que si on nous demande de définir la vie chrétienne, nous allons répondre la vie chrétienne, c'est d'aimer, que nous aurons plus de mal à répondre la vie humaine, c'est de contempler. Et si on a peu de culture, on sait que les philosophes ont dit que le but de la vie humaine, c'était de contempler. Ça, ce sont les païens qui l'ont dit. Mais l'Évangile nous dit, il faut aimer. Hein? L'Évangile nous dit, il faut pas seulement contempler, il faut aimer. Il faut surtout aimer. Mais la question rebondit, et c'est ce qu'il s'agit de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est qu'aimer? Et comme on peut s'y attendre, la réponse du chanoine allemand sera de dire que aimer, c'est d'abord et surtout contempler. Et ça, sans même entrer dans les dédales de l'argumentation avec certains mots techniques, certaines argumentations compliquées, c'est cette vérité simple que nous avons déjà rencontrer de bien des manières lorsque nous avons parlé, par exemple, de la liberté, lorsque nous avons parlé du bien commun dans les années précédentes. Et cette conviction que nos auteurs, comme Jacques de Montléon ou Daniel Joseph Lallemand, ne cessent de répéter, c'est que aimer, c'est regarder l'autre et l'aimer pour ce qu'il est. C'est se réjouir de ce qu'il est, ce qu'il est. Et finalement, le but de la vie humaine, là où elle s'accomplit vraiment, c'est quand l'homme se réjouit que Dieu soit Dieu. Finalement, c'est très libérateur parce que quand on s'interroge sur le succès ou l'échec d'une existence, si on suit nos auteurs, ça signifie que une existence réussit lorsque celui qui la mène a fait de Dieu en lui-même, de sa vie, de ce qu'il est, son bonheur, sa joie. Mais ce que je dis de Dieu, on peut le dire plus largement, de toutes les autres personnes que nous aimons. Donc, finalement, ce que nous disons de la contemplation doit nous conduire à réfléchir à ce qu'est l'amour. Remarquez bien que lorsque le chanoine allemand dit il ne faut pas réduire la notion de charité à un service des hommes, il ne dit pas il faut réduire la notion de charité à l'amour des hommes. Il n'oppose pas amour de Dieu et amour des hommes. Mais il nous interroge sur notre conception de l'amour. Qu'est-ce que ça signifie qu'aimer? Et qu'est-ce que ça signifie réduire l'amour au service que l'on rend éventuellement à autrui? Donc il s'agit de s'interroger sur ce qu'est l'amour. Et l'amour, qu'on appelle charité, ce qui correspond au mot grec agapé, ça signifie non seulement l'amour, mais un amour d'une qualité supérieure. Hein. Dans le mot charité, on a chair, hein, carousse, hein, de grand prix. Hein. Et on pourrait dire la même chose de l'étymologie d'agapé. C'est un amour excellent. Et dire que c'est un amour excellent, ça correspond au fait que c'est tout notre être qui est engagé dans l'amour de charité. À proprement parler, quand on parle d'amour, on pense au désir, on pense au... on pense à la joie, on pense plutôt à quelque chose qui est de l'ordre de l'affection et de la volonté. Mais l'exercice de cet amour qui est l'amour de charité mobilise toute notre personne, notre vouloir et toutes nos facultés, écrit Daniel Joseph Lallemand. Et donc l'exercice de la charité qui est conçu comme le plus haut amour, c'est le plus haut exercice, non seulement de notre désir, de notre volonté, de notre tout ce qui fait notre sensibilité, mais de toutes les facultés humaines. Alors, la tradition thomiste va insister sur un certain primat de l'intelligence et donc de la contemplation dans la vie d'amour de charité. Incertain, c'est relatif parce que dans la réalité de l'amour, d'un autre point de vue, on peut dire que parfois le désir, la volonté précèdent l'intelligence et vont plus loin que l'intelligence. Et il y a des traditions spirituelles, philosophiques, qui mettront l'accent sur la volonté, alors que d'autres, et la tradition thomiste et disons en gros dominicaine, insistera plutôt sur ce qu'il y a de lumière dans l'amour et dans l'amour de charité. Donc, continuons à réfléchir à la nature de l'amour, à ce qu'est l'amour. Si il s'agit de la plus haute des facultés, s'il s'agit du plein épanouissement de notre nature humaine, dirais-je, alors en avoir une mauvaise idée, c'est vraiment dommage et même inquiétant. Alors avec ce côté toujours un peu tranchant et tragique de ce pasteur d'âme qui était Daniel Joseph Lallemand, qui a très peur que nous nous laissions égarer d'une manière ou d'une autre, hein, il dira, et il le dira en latin, ça nous impressionnera davantage, corruptio optimi pessima, hein, la corruption de la meilleure des choses, c'est la pire des choses. Et si on a une mauvaise idée donc de la meilleure des choses qu'est l'amour de charité, ça pourrait nous conduire à la pire des conduites. Or, c'est pas seulement la plus haute des facultés de l'homme qui est appelée du nom de charité, mais c'est Dieu lui-même, comme nous l'apprend la première épître de Jean, que le chanoine allemand, bien sûr, cite, Dieu est agapé, Dieu est charité, Dieu est cet amour au-dessus de tout amour. Alors, relisons ce passage de de la première de Jean, chapitre 4, verset 8, que le chanoine allemand cite dans son verset le plus connu, Deus Caritas, hein, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Traduction de la Bible de Jérusalem et de la traduction œcuménique de la Bible. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli. Alors, resitué dans l'ensemble du passage de la première de Jean, on voit que ce dont parle Jean d'abord, c'est de l'amour entre, de l'amour fraternel. Il en désigne la source, qui est Dieu lui-même. Lorsqu'il dit que Dieu, personne ne l'a jamais contemplé, est-ce que c'est une remise en question de la thèse ici avancée, hein, c'est-à-dire Dieu, personne ne l'a jamais contemplé, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli, hein, le verset pourrait nous faire penser que ben, l'important, justement, ce n'est pas la contemplation, mais c'est de s'aimer les uns les autres. Alors, justement, le texte s'éclaire quand même un peu avec ce que le chanoine allemand nous a déjà mis en tête, hein, c'est que il n'est pas dit si nous nous servons les uns les autres, mais si nous nous aimons les uns les autres. Ce que le texte nous dit, c'est que il y a une manière d'aimer qui trouve sa source en Dieu et que l'expérience de l'amour, ici de l'amour fraternel, est connaissance de Dieu. Même Jean ne dit pas, l'apôtre ne dit pas, en aimant le frère, on apprend à aimer Dieu, ce qui est juste par ailleurs, ce que Augustin dit quand il commente la première épître, mais il dit, aimer le prochain, c'est aimer Dieu. Et il dit ça, il dit pas en fait, aimer Dieu, c'est aimer le prochain. Mais il dit que c'est à partir de l'expérience que nous avons de l'amour de Dieu, que nous apprenons comment aimer notre prochain, et si nous aimons notre prochain, alors Dieu demeure en nous et nous naissons de lui et nous le connaissons. Donc, quand il dit Dieu, personne ne l'a jamais contemplé, ça veut dire que Dieu, personne ne l'a jamais vu immédiatement et n'a jamais pu contempler Dieu comme on contemple n'importe quelle réalité de ce monde. En commentant ce texte, dont il ne retient que l'affirmation Dieu est amour, le chanoine allemand revient sur deux points. La charité, l'amour de charité, l'agapé, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aussi que la charité, justement, le mot de charité, dans le sens qu'il a pris aujourd'hui, ben, c'est de rendre service aux autres, hein, éventuellement de leur faire l'aumône, avec une certaine connotation négative qu'on peut donner au terme. En ce que ça peut renvoyer à des attitudes assez condescendantes, en surplomb par rapport aux misérables qu'on vient aider. Hein, Bon, ici, quand on parle de charité, c'est l'amour de charité, c'est la caritas, c'est l'agapé. Hein? Eh bien, la charité est la seule réponse digne de l'amour que Dieu nous porte. Si Dieu nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres, hein, dit le texte de Jean. Donc effectivement, l'amour de charité est la seule réponse digne enfin, que nous offrons, hein, en retour à l'amour que Dieu nous a manifesté dans le Christ. L'assimilation, la charité est assimilation de notre amour à l'amour de Dieu, à l'amour qu'est Dieu, hein, selon le texte de la première de Jean, qui dit effectivement, en ceci consiste l'amour, hein, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Alors, il s'est développé une théorie au cours du XXe siècle opposant l'amour de charité, agapé, à une autre forme d'amour qu'en grec on appelle eros. Hein, l'agapé étant compris comme amour désintéressé, amour gratuit, et Eros étant compris comme amour intéressé, amour de désir. Et ça a été un des grands combats du chanoine allemand que de s'opposer à cette théorie opposant agapé et Eros. Cela dit, on peut quand même signaler que 40 ans plus tard, hein, dans son encyclique Deus Caritas, Benoît XVI s'opposera lui aussi à une opposition tranchée entre agapé et héros, c'est-à-dire entre l'amour en tant qu'il est désir, l'amour de Dieu en tant qu'il est désir de Dieu, et un amour agapé qui serait un amour désintéressé, qui serait pur service. De Dieu et d'autrui. Si Dieu ne nous aime pas d'agapé, mais nous aime seulement d'éros, c'est dire que il ne nous aime pas pour ce que nous sommes, mais il nous aime pour ce qu'il nous donne. Et aimer Dieu d'un amour qui serait un amour d'agapé et pas un amour d'éros, ce serait trouver notre joie et notre accomplissement dans ce que nous faisons pour Dieu et non pas de ce que Dieu est en lui-même. Ce serait nous réjouir de faire le bien et non pas du bien que nous trouvons en Dieu et que nous trouvons en l'autre. C'est vrai qu'il y a une affirmation trop vite avancée, selon laquelle la vie chrétienne, ça n'est pas comme c'est le cas dans l'idéal de vie prôné par les philosophes païens. Une contemplation de réalité éternelle, mais c'est la poursuite de l'action créatrice de Dieu dans le service des autres. Qu'il faille poursuivre l'action créatrice de Dieu en servant les autres, c'est bien évident. Mais finalement, si on s'arrête là, écrit le chanoine allemand, c'est bien peu de choses. Bien peu de choses par rapport à ce que Dieu veut nous offrir, c'est-à-dire lui-même. Dieu veut se donner lui-même. Et le chanoine allemand revient à sa préoccupation liturgique, à son souci de nous montrer ce qu'apporte la liturgie renouvelée à la suite du concile, en insistant sur sa dimension contemplative. Et ici, il le fait à partir des textes même de la liturgie, et il cite la préface de la quatrième prière eucharistique. Alors, il y renvoie, il en cite deux lignes, je développe un peu cette référence. Vous connaissez le texte si vous pratiquez régulièrement. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint. Donc la préface, c'est donc ce texte qui introduit la prière eucharistique à la messe. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. C'est vrai que ce texte prononcé par le prêtre, aujourd'hui à haute voix, entendu par les fidèles, est tout entier un texte contemplatif parce que il est d'abord une action de grâce rendue à Dieu pour ce qu'il est. Hein. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Commentant le texte, le chanoine allemand écrit: Dieu a créé non seulement pour combler l'homme de ses bienfaits, mais pour réjouir les créatures de la clarté de la lumière, en faisant contempler la gloire de sa face. C'est bien tout le mouvement du texte, hein, et qui nous renvoie finalement à cette contemplation des anges hein, dans le ciel, comme pour comment dire nous situer dans la grandeur du cosmos, mais aussi pour insister sur le fait que c'est Dieu dans sa gloire qui est au centre de tout et que bon, l'homme ne répond pas à un besoin de Dieu, n'est pas au centre, mais que il est entraîné dans un mouvement qui le dépasse et qui le conduit jusqu'à la contemplation du visage de Dieu. Dieu veut nous introduire dans sa propre lumière, hein, cette lumière au-delà de toute lumière, dit le texte. C'est-à-dire, il veut nous introduire dans ce qu'il a de tout à fait propre, dans son être intime. Hein. Si on peut le comparer avec l'expérience que nous avons de l'amitié ou de l'amour, nous savons ce que signifie ce passage d'une connaissance superficielle d'un être à une connaissance personnel d'un être, d'une connaissance personnelle d'un être, à une entrée dans son intimité. Hein. Or, Dieu veut nous introduire non seulement à une connaissance indirecte que nous pouvons avoir de lui, comme étant celui qui est capable de créer le monde, mais il veut nous introduire dans une connaissance personnelle, donc avoir un lien avec lui qui est un lien de connaissance et d'amour, et que cette connaissance personnelle aille jusqu'à une connaissance de son intimité même, hein, entrer dans son intimité. Et entrer dans l'intimité de quelqu'un, c'est, je crois, être capable de voir à travers ses yeux, hein, d'aimer à travers son cœur. C'est cette connaissance de lui-même sans intermédiaire et sans ombre qui est ce à quoi Dieu veut nous conduire, et c'est infiniment plus, veut le dire le chanoine allemand, que de prolonger l'activité créatrice de Dieu. Il a créé non seulement pour combler de bienfaits, mais pour réjouir les créatures de la clarté de la lumière. Certes, nous devons continuer l'œuvre créatrice de Dieu, mais ce n'est pas la plus haute raison, notre plus haute raison d'être. Parce que pour Dieu lui-même, créer n'est pas ce qu'il a fait de plus divin. Ce qui en Dieu est le plus divin, c'est qu'il soit ce qu'il est. Et ce n'est pas ce que librement il a choisi de faire, c'est-à-dire de créer. De créer des êtres qui ne lui apportent rien. Et encore une fois, ce qu'il y a de plus haut en Dieu, ce n'est pas le fait que librement il ait choisi de créer, mais c'est le fait que Dieu soit Dieu. Et la grâce qu'il veut nous donner, qui est-ce qui va nous préparer à recevoir ce don que Dieu veut faire de lui-même, certes, elle nous aide à agir dans le monde, mais elle est beaucoup plus que cela. Elle est l'accueil de ce don que Dieu veut nous faire de lui-même. Et spontanément, quand nous parlons de grâce, est-ce que nous ne pensons pas d'abord à quelque chose qui va nous aider à faire ce que nous devons faire? Mais la grâce, de façon plus foncière, c'est ce qui va nous permettre d'être ce que Dieu veut que nous soyons, c'est-à-dire ses amis, c'est-à-dire non pas seulement des personnes qui font des choses pour lui ou des choses comme lui, mais des êtres qui sont capables, d'une certaine manière, de voir comme il voit, d'aimer comme il aime, hein, de voir à travers ses yeux, hein, d'aimer à travers son cœur, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ça, c'est proprement ce que je viens de dire, la vie qu'on appelle dans la tradition thomiste, c'est pas exactement le mot de saint Thomas, mais c'est la vie théologale, la vie d'amour, de foi, d'espérance, de charité. Ce don gratuit de la vie théologale. Ce don gratuit parce que ça n'est pas un don qui découle de notre nature. Ça n'est donc pas quelque chose que Dieu devait nous donner après nous avoir créés tels que nous sommes. Et le chanoine allemand insiste sur ces trois, je dirais, niveaux dans notre perception de l'amour de Dieu. Hein. Il nous crée, il nous appelle à l'existence, il nous communique sa propre vie et il nous la communique de la manière qu'il a voulu nous la communiquer, c'est-à-dire par la rédemption, par l'amour miséricordieux que Jésus nous a montré sur la croix. Nous sommes donc appelés à aimer comme Dieu aime lui-même, en étant devenus ses intimes. Il n'y a qu'un seul amour en Dieu. Et là aussi, si nous réfléchissons à la portée de cette affirmation, ça veut dire que Dieu nous aime de l'amour même dont il s'aime lui. C'est pas un amour dégradé. Dire que foncièrement Dieu s'aime lui-même et que il ne peut rien faire de plus que s'aimer lui-même, ça veut dire aussi que lorsqu'il nous aime, il nous aime de cet amour dont il s'aime lui-même. Et donc il nous aime infiniment. Et il nous aime de manière indéfectible. Donc qu'est-ce que la charité? Alors, on en a déjà dit beaucoup, hein, mais on a plutôt insisté jusqu'ici sur ce qu'elle n'était pas. Elle n'est pas seulement ce qu'elle n'était pas seulement. Elle n'est pas seulement service de l'autre. Elle n'est pas seulement continuation de l'œuvre créatrice de Dieu. La définition que le chanoine allemand propose de la charité, c'est la disposition d'accueil d'un tel amour, cet amour dont Dieu nous a aimés, l'exercice de la communion à cet amour. Et donc la charité, c'est se disposer à accueillir l'amour dont Dieu nous aime et c'est communier à cet amour tout à fait singulier qui est le sien. Tout à fait singulier. Alors là, on retrouve bien l'enseignement de la première de Jean, hein, Dieu, c'est pas nous qui l'avons aimé en premier, c'est lui qui nous a aimés, qui nous a aimés jusqu'à envoyer son Fils pour nous sauver. Et donc la charité, c'est d'abord accueillir cet amour et communier à cet amour. Et le plus haut exercice de la charité, c'est contempler ce qu'est Dieu en lui-même et ce qu'il a fait pour nous introduire là. Contempler Dieu amour et contempler la manière dont il a manifesté son amour. Nous cheminons en ce monde à la lumière du témoignage divin reçu dans la foi, écrit le chanoine allemand. Le témoignage divin, c'est le témoignage que le Christ a donné, hein, lui qui est le témoin véritable, comme dirait l'Apocalypse, hein. Nous cheminons à la lumière de ce témoignage dans la foi, c'est-à-dire que ici-bas, comme le disait la première de Jean que nous avons écoutée tout à l'heure, nul ne voit, n'a vu Dieu, et donc nul ne le contemple comme on contemple une autre réalité de ce monde. Nous cheminons donc à la lumière de la foi, mais nous avons une certaine expérience déjà de l'amour divin. Et c'est là que, dans une certaine mesure, l'amour précède la connaissance, c'est-à-dire que nous goûtons l'amour de Dieu, et cet amour de Dieu nous ouvre notre intelligence à ce qu'est Dieu en lui-même. Déjà, c'est déjà un certain contact de la réalité même de Dieu. Alors, on peut dire, débattre à l'infini du fait de savoir est-ce qu'il y a expérience immédiate ou pas de Dieu, oui, il faudra dire qu'il y a l'expérience immédiate de Dieu. Hein. Dans quelle mesure elle relève de la connaissance ou de la volonté, bon, ça nous ferait entrer dans des débats trop compliqués, bon, mais nous avons déjà ici-bas, du fait de l'Évangile, une certaine expérience de l'amour de Dieu. Cette expérience de l'amour de Dieu ouvre notre intelligence et notre cœur au mystère même de Dieu et en faire notre joie, hein, et en faire le but de notre vie, c'est-à-dire le connaître et l'aimer toujours davantage, hein, jusqu'à le connaître à la lumière non plus de ce qu'il fait pour nous, mais de ce qu'il est en lui-même, c'est ça la vision, hein, eh bien, ça, c'est la liberté des enfants de Dieu, dirait Paul au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, et c'est le sommet de notre vie ici-bas. Alors, il y a cependant, ici encore, quelque chose qui, à mon sens, que je ne trouve pas dans le texte du chanoine allemand, et que ce qui me met un petit peu en décalage par rapport à son texte. J'y avais déjà fait allusion la fois passée quand j'ai parlé du mal et de la rédemption. Alors bien sûr, la rédemption, dans le texte, il nous en est parlé, hein, puisqu'il nous est dit justement que c'est à travers elle, et donc à travers le don que Jésus fait de lui-même sur la croix, pour nous sauver du péché, que nous connaissons Dieu et que nous contemplons son amour. Ça, c'est tout à fait... bon, ça c'est tout à fait explicite chez le chanoine allemand. Mais vous vous rappelez de la question que nous avions posée il y a 15 jours, mais pourquoi le Christ est mort comme il est mort? Pourquoi est-il mort de cette manière si violente? Et c'est de fait, je pense, la violence même du mal qui me semble au moins insuffisamment évoqué par le chanoine allemand. Et cela conduit à une affirmation que je voudrais discuter. Alors je le fais modestement, et vous allez peut-être réajuster mon regard et puis me dire, mais on peut le comprendre de telle ou telle manière. Page 60, en une phrase, le chanoine allemand nous dit comment il comprend la rédemption. Et c'est ce qu'il va développer, mais je vais m'arrêter ce soir pour que nous puissions discuter au premier texte, hein. Mais ce qu'il va développer dans le second texte, c'est ça, c'est-à-dire, page 60, l'amour divin nous arrache à quoi? Au péché. Mais ici, il dit l'amour divin nous arrache à la complaisance dans le créé. Et dans le texte qui suit, il va comprendre le salut, il va nous inviter à le comprendre comme la fuite du monde, à travers un texte de saint Ambroise, hein, si vous avez eu le temps de lire le texte, un très beau texte de saint Ambroise, qui développe ce thème essentiel dans la tradition spirituelle de la fuite du monde, du détachement par rapport aux réalités créées pour s'attacher à Dieu seul. Mais c'est la question que je pose. Est-ce que nous avons vraiment identifier ce qu'était le péché, si nous le pensons d'abord comme complaisance dans le créé. Eh bien, j'ai du mal à souscrire à cette affirmation. Parce que se complaire dans le créé, en soi, c'est une bonne chose. Parce que ce que nous avons dit de la contemplation tout à l'heure, en disant qu'elle s'appliquait à Dieu d'abord, mais qu'elle s'appliquait aussi aux êtres que nous pouvons et devons aimer, la contemplation, c'est rien d'autre que une complaisance en l'autre. Que l'autre soit l'incréé, Dieu, ou que l'autre soit une créature. Je ne conteste pas, et il faut vraiment, là aussi, approfondir cela, que le progrès dans la vie spirituelle soit connexe d'un détachement de tout ce qui n'est pas Dieu, et que notre amour des créatures doive se purifier de plus en plus pour les aimer pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire à la lumière de Dieu. Je ne le conteste pas. Mais est-ce qu'on touche le fond du péché quand on dit le péché, c'est se complaire dans la créature? Est-ce qu'on touche le fond du péché, le fond du mystère de la rédemption? Est-ce que Jésus a souffert ce qu'il a souffert pour nous racheter des plaisirs qu'on prendrait dans la jouissance des créatures? C'est un langage assez courant, un langage assez traditionnel. Il a sa part de vérité, mais ce n'est pas le fond des choses. Et c'est là que je discuterai ce que... écrit le chanoine allemand, il me semble qu'il y a quelque chose, on ne va pas assez loin. Alors vous allez me dire, bon, ben alors c'est quoi la rédemption si c'est pas nous délivrer de la complaisance dans le créé, si effectivement la complaisance dans le créé pouvant être dans certaines conditions une chose bonne, on peut en faire le fond du péché. Eh bien, moi je comprends le fond du péché. Et ce n'est pas un scoop parce que c'est quand même aussi ce que nous dit la tradition et ce que dit tout au début le chanoine allemand, mais à mon sens sans trop y insister, le péché, c'est de m'affirmer moi-même contre l'autre. C'est de me poser contre autrui. S'affirmer contre l'autre, individuellement, collectivement, c'est ce que la tradition appelle l'orgueil. Et alors, généralement, tout est du texte, mais c'est vraiment, il passe vraiment très rapidement. Il dit, au fond, ce qui se cache derrière la réduction de l'amour au service de l'autre, c'est de l'orgueil. D'accord. Mais donc, ce à quoi Jésus, en son humilité, nous arrache, c'est pas tant et d'abord la complaisance dans le créé, qui par ailleurs peut être une bonne chose, même s'il faut la purifier, etc., mais il vient briser notre orgueil. Il s'est anéanti lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Mais c'est pas comment dire, un anéantissement de son désir. Au contraire, enfin, l'homme de désir, c'est Jésus sur la croix. Hein. Et même son désir du créé, en ce que Jésus nous désire, nous, notre salut sur la croix. Mais ce qui est chanté dans l'hymne aux Philippiens, que je viens de citer, donc ce passage, cette prière très ancienne de l'Assemblée chrétienne qu'on retrouve dans la lettre de Paul, c'est l'humilité de Jésus. Là, c'est un enseignement, évidemment, le chanoine allemand le savait fort bien, hein, mais là, je crois qu'il ne le met pas assez en avant. C'est un enseignement fondamental chez Augustin. Qu'est-ce que Jésus est venu nous ouvrir? Le chemin de l'humilité. En lui-même, Jésus est venu nous ouvrir le chemin de l'humilité. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Il brise le péché sur la croix en brisant notre orgueil. Mais alors, il faut bien comprendre, hein, aussi quand on parle d'orgueil. L'orgueil, c'est terrible parce que c'est exister contre l'autre. C'est trouver moyen de s'affirmer contre l'autre et vouloir s'affirmer contre l'autre. Et ça, c'est terrible. Mais c'est tellement nous. C'est tellement nous. Hein? De ne pouvoir dire je, de ne pouvoir dire moi, qu'en me distinguant de l'autre allant même parfois jusqu'au détriment de l'autre. Hein? Dans un monde qui est toujours un monde de concurrence, de rivalité, et donc, de jalousie. C'est là qu'est le mal. Et bien sûr, Dieu est tout le contraire de cela, hein, puisque il n'a aucune raison il ne dépend de personne, mais même dans sa bonté, toute gratuite, non seulement il a besoin de personne pour se poser, pour s'affirmer, mais il fait exister l'autre, merveille de son amour, et comme le chanoine allemand dit bien dans son texte, mystère de sa liberté, parce que ça ne lui ajoute rien. C'est très mystérieux, ça. Hein, pourquoi est-ce que Dieu crée si ça n'ajoute rien à Dieu, si ça n'ajoute rien à l'être, finalement? Alors que nous, lorsque nous aimons, ça nous apporte toujours infiniment. Hein? Qu'est-ce qui rend humble? Et alors là, nous retrouvons le chanoine allemand et nous comprenons encore mieux l'importance de ce qu'il veut nous faire comprendre lorsque il insiste sur le primat de la contemplation. Ce qui me rend humble, c'est de respecter l'autre, d'admirer l'autre. C'est la contemplation aimante et joyeuse de Dieu en ses œuvres et en lui-même. C'est le fait de retrouver sa signature en chacune de ses créatures, en chacun de nos frères et sœurs. Saint Thomas dit dans la somme de théologie, c'est une des perles spirituelles, je crois, de la somme de théologie. Il y avait une excellente, le 28 janvier, j'étais à l'Institut catholique de Paris pour la messe de Saint Thomas d'Aquin, et puis le prédicateur a relevé dans la somme de théologie quelques perles, disait-il, et il en a cité qui sont des passages que ça m'a beaucoup touché, parce que pour moi, c'est des passages qui effectivement m'ont marqué, lorsque Saint Thomas dit la vertu de force en christianisme, son signe, c'est martyr, et lorsqu'il dit Jésus garde jusque dans la gloire les blessures de la passion parce que justement ce sont les signes de son amour, c'est chose très belle. Mais donc on trouve de ces perles comme ça dans un exposé par ailleurs aussi objectif qu'est le texte de la somme de théologie. Mais Thomas dit aussi qu'il s'interroge sur le respect qu'on doit à autrui. Et Thomas dit, on respecte une personne dans la mesure où elle nous est supérieure. Alors pour Dieu, bon voilà, on respecte. Pour les autres, effectivement, on va respecter ses parents, on va respecter sa patrie. Mais alors, est-ce qu'on respecte, pour respecter tout humain, parce que il n'est pas évident que tout humain nous soit supérieur. Et Thomas dit, quelle que soit la personne à qui j'ai affaire, j'ai toujours une raison de la considérer comme supérieure à moi-même. Il y a toujours quelque chose en elle qui fait que, d'un certain point de vue, elle m'est supérieure, et donc que je dois la respecter, que je dois l'admirer. Cette capacité de respect, d'admiration, c'est ce qui va nous rendre profondément humbles. Donc, l'insistance sur la contemplation, hein, n'est pas vaine. Mais je crois que, si vous voulez, autant le versant positif me semble vraiment lumineux chez le chanoine allemand, il y a quelque chose dans ce qui ne dit pas du péché, ou ce qui met même en avant dans le péché, avec quoi je ne suis pas, moi, tout à fait, voilà, mais là vous allez encore une fois peut-être m'éclairer et me faire progresser là-dessus, mais avec quoi je ne suis pas en harmonie. Je pense que. Et alors, pour aller jusqu'au bout, parce qu'on reprend cette question, c'est parce que c'est à notre orgueil que Jésus s'en prend, qu'il vient briser, qu'il souffre la mort qu'il va souffrir. Parce que si l'orgueil, c'est s'opposer contre l'autre, s'opposer contre l'autre, s'affirmer contre l'autre, Jésus ne fait absolument pas ça. Il ne s'affirme, même comme fils de Dieu, contre personne d'autre. Le grand drame des pharisiens, c'est que les pharisiens, collectivement, comme les justes, les purs qu'ils sont, vont exister en s'opposant contre les autres. Ce qui va les faire exister à leurs propres yeux, c'est d'être différent de l'autre. Ce qui fait exister le pharisien de la parabole de Jésus, c'est de se sentir supérieur au publicain. C'est ça qui le fait, qui finalement le satisfait. Et faisant cela, ben, le problème, c'est pas tant qu'il soit vaniteux et que c'est, mais c'est qu'il loupe complètement ce qui devrait être le but de sa vie. Hein? Et je pense que c'est pas, comment dire, en repensant les choses comme ça, en comprenant ce drame terrible de ce qu'est le péché, on comprend la fureur que l'innocent comme Jésus provoque dans un groupe qui n'existe que dans l'exclusion. C'est en excluant l'autre, en me différenciant de l'autre, en affirmant mon identité contre l'autre, mais s'en prendre à ça, c'est déclencher des haines terribles contre soi. Et si Jésus a souffert comme il a souffert, c'est pas comme un fakir qui, par chacune de ses souffrances, nous apprend à nous détacher d'un plaisir humain au créé, ce qu'on trouve quand même parfois dans la littérature spirituelle, mais c'est parce que c'est notre humanité qui s'acharne contre lui, parce que ça, nous n'en voulons pas, parce qu'il vient remettre en question ce à partir de quoi, trop souvent, nous nous construisons comme personne et comme communauté. Et ça, c'est d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment le péché originel, pour le coup, parce que péché originel, c'est un groupe qui existe à partir de l'exclusion de l'autre. Et Jésus, eh bien, il revient reconstituer une communauté sur une autre base. Alors, c'est tout à fait déstabilisant, c'est plus que dérangeant, et suivre Jésus dans l'humilité qui est la sienne, c'est autre chose que faire des efforts pour ne pas manger trop de confiture pendant le carême, vous comprenez? Même si ne faire ces efforts de comment dire, de tempérance, hein, ça a tout à fait son sens. Mais dans la mesure où un certain attachement au créé va justement est lié à un certain repli sur moi-même. Hein? Et parce que seul Dieu, dans la gratuité de son amour, créateur et sauveur, peut m'apprendre à exister autrement que contre l'autre. Parce que Dieu lui-même n'existe pas contre qui que ce soit. Hein, Dieu est, voilà, il n'existe pas contre qui que ce soit. Et celui peut m'apprendre par ce qu'il est et par sa manière d'agir, il peut m'apprendre à la véritable humilité. Mais la véritable humilité, ça me rend capable de me réjouir des autres, au lieu de m'attrister de ceux qu'ils soient meilleurs que moi, différents de moi. Et alors, quelle liberté et quelle joie. Et c'est la joie de Saint François dans la création. La création, vous voyez, François se complaît dans la créature, dans les créatures, dans leur beauté, parce que tout ce que sont les autres enrichit son être. Et qu'est-ce qui le rend capable d'être enrichi par l'autre? Eh bien, c'est justement sa faculté de contempler, sa faculté de connaître la réalité, non pas seulement pour ce qu'elle m'apporte, mais pour ce qu'elle est en elle-même. Et alors là, on pourrait la développer les choses philosophiquement, et on revient en chanoine allemand, et on comprend encore mieux l'importance de ce qu'il nous dit. Hein, c'est que ce qui fait l'humain, c'est de s'intéresser aux choses pour ce qu'elles sont, et pas simplement pour ce qu'elles lui apportent. Mais pour ce qu'elles sont en elles-mêmes. C'est ça qui est prodigieux, même dans le regard d'un enfant, d'un petit enfant sur le monde. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ben, tais-toi et mange. Mais non. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le regard. Moi, pour moi, c'est pas, voilà, c'est enfin, le thomisme, ou c'est une doctrine. Dont l'objet est le regard de l'enfant, le regard que l'enfant porte sur les choses, que le petit homme porte sur les choses, et qui est déjà quelque chose de prodigieux parce qu'il est ouvert sur l'infini, et donc il s'intéresse aux choses pour ce qu'elles sont. Ce qui veut dire que, bien sûr, et ça, je reviens ensuite avec du chanoine allemand, il le dit très bien, Dieu nous aime de façon totalement désintéressée, mystère de sa liberté. Nous avons tout intérêt à aimer Dieu, parce qu'il nous apporte ce qu'il est, et on ne peut rien recevoir de plus. Mais quand on aime Dieu, on l'aime pour lui-même, c'est-à-dire qu'on l'aime plus que soi-même. On aime davantage Dieu que la propre joie que l'on trouve à l'aimer. Et ça, on n'a pas des efforts à faire. Alors ça va être. Parce qu'ensuite, il y a des mystiques qui vont, enfin des mystiques ou des pseudo-mystiques, en tout cas, on va spéculer là-dessus, on va dire, mais donc, le pur amour, il faut que je m'attache à Dieu, même s'il me damne, s'il m'emmène en enfer, il faut que j'aime Dieu, c'est pur amour. Ce que Dieu donne, c'est pas le paradis, l'enfer, c'est lui-même. Hein, et s'il nous donne lui-même, il nous donne son amour. Et s'il me donne son amour, il y a quelque chose en moi qu'il m'a donné qui fait que rien n'est plus important pour moi que Dieu lui-même. Si l'Eucharistie est mystère de la foi, si l'Eucharistie nous rend présent l'amour divin et nous alimente de l'amour divin, alors l'Eucharistie est par excellence le lieu de la contemplation, et donc l'Eucharistie est par excellence le lieu de l'amour. Le lieu de l'amour de charité. C'est là où nous apprenons à aimer, comme nulle part ailleurs, et que nous pouvons aimer, comme nulle part ailleurs. Voilà mon commentaire donc de la premier des textes du chanoine allemand. Je laisse le
Chapitre 5.
deuxième, on pourra y revenir.
Chapitre 5
Oui.
du livre de chanoine allemand. Alors maintenant, ceux qui veulent, vous avez la parole pour poser des questions, faire des remarques à Frère Gilles.
Moi, je veux bien poser une question. En fait, là, vous venez de nous parler justement d'une situation de confrontation qui est celle qui serait de confrontation avec l'autre, qui serait celle du péché, enfin, entre autres. Mais en fait, et vous me dites, en fait, tout ça, en fait, c'est le péché d'orgueil, enfin, comme classiquement, voilà, parce que, en fait, on se situe au-dessus de l'autre, quelque part, on a ce sentiment-là. Mais en fait, moi, ma question est un peu simple. C'est, dans la religion chrétienne, la religion chrétienne se dit avoir une vocation universelle et nous appeler à vouloir convertir. Et donc, vous me voyez venir, si je veux convertir, est-ce que je peux éviter la confrontation? Et en fait, si je veux convertir, est-ce que implicitement, je considère pas ma religion comme supérieure à celle de celui d'en face? Donc il y a une question, il y a quelque chose d'élément de supériorité puisque je veux le convertir à ma croyance. D'ailleurs, je précise que toutes les religions ne présentent pas une vocation d'universalité. Il y en a certaines et pas toutes.
Alors, la question que vous posez est une question très importante, tout à fait décisive, qui nourrit beaucoup de débats, mais peut-être que, elle montre que nous sommes prisonniers je dirais, de manières de penser qui sont pas tout à fait justes. La question peut-être est plutôt est-ce qu'une culture est supérieure à une autre? Est-ce qu'une culture, même imprégnée de christianisme, comme l'est la culture européenne, est supérieure à une autre culture où le christianisme n'est pas connu? Est-ce que la culture des conquistadors était supérieure à la culture des Indiens qu'ils ont exterminés? Est-ce que la culture des Européens au moment de la guerre de l'opium, où ils ont forcé le commerce de la drogue contre les autorités chinoises qui voulaient le bien de leur peuple, était supérieure justement à la culture chinoise qui s'appelait? Ça, j'en suis pas du tout sûr. Or, c'est le sens même du mot de religion qui est en cause, parce que nous, occidentaux, déjà, nous distinguons la religion d'autre chose qu'elle, alors que dans la plupart des cultures, le mot de religion n'existe pas, hein, à commencer par la culture juive. Ça vous explique peut-être, mais dans l'Ancien Testament, vous ne trouvez pas le mot de religion, vous trouvez le mot de loi. Ce qui n'est pas la même chose. Dans le Nouveau Testament, on a le mot de religion, mais ça désigne une vertu, c'est plutôt la vertu de piété. Et donc, lorsque je reçois du Christ, revenons au mot même de l'évangile, hein, lorsque je reçois du Christ le commandement d'annoncer l'évangile, il ne me demande pas de promouvoir une culture. Il me demande d'annoncer un événement. Il y a quelque chose qui fait que la vie humaine a changé, puisque l'un d'entre nous qui est mort comme il est mort est ressuscité, qui s'appelle Jésus, et que je confesse comme Dieu. Et ça concerne toute l'humanité, et il y a urgence de lui faire savoir. Je pense que voilà, la mission chrétienne, ça n'est pas de promouvoir une culture contre une autre culture. Ensuite, disant cela, je ne dis pas que l'évangile soit sans exigence sociale. Alors, il faudrait réfléchir à ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Je ne dis pas que... Moi, je pense personnellement que quand on est chrétien, on doit s'engager pour la défense des droits humains. Et que les droits humains, c'est quelque chose justement d'universel. Et que c'est normal qu'il y ait un droit international. Disant tout cela, j'ai effectivement une certaine idée de la culture. Et des principes qui doivent diriger toute culture. Bon, et toutes les sociétés n'honorent pas ces exigences de la même manière. Je ne pense pas que les droits humains soient honorés aujourd'hui en Iran comme ils le sont en France, même si il y a des gens qui meurent pour les droits humains en Iran, alors que ce n'est pas tout à fait le cas en France. Bref. Voyez, moi je répondrais comme ça. Je pense que cette difficulté que vous dites et qui est vraiment, elle fait débat, hein, c'est des débats vifs en théologie et depuis des siècles. Mais je pense que revenons à l'Évangile et qu'encore une fois l'Évangile c'est pas la promotion d'une culture, c'est pas l'affirmation de la supériorité d'une culture contre une autre culture. Moi je pense que au cœur de l'évangile, justement, il y a l'imagination d'un monde nouveau à partir de ce qu'on eût dit des rapports entre Israël et les nations. Et Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple qui a reçu la révélation. C'est le peuple qui est porteur de la loi. C'est le peuple qui est chargé de l'annoncer. Mais il a un grand choix devant lequel le met Jésus. C'est celui de l'universalisme ou du repli sur soi. C'est-à-dire le fait, en tant que peuple de Dieu, de s'affirmer en s'opposant, ou au contraire, de vivre, dans l'accueil et le dialogue. Hein, c'est des choses. Et pour moi, donc, aujourd'hui, la forme que doit prendre la mission chrétienne, c'est celle du dialogue, où nous faisons part de notre foi en la résurrection, en la seigneurie du Christ, et les gens ne vont pas enfin, tourner le dos parce qu'on leur parle de ça. Mais, et pour terminer, c'est long parce que c'est que vous parlez de convertir l'autre, mais ce que les missionnaires nous disent de plus en plus, c'est que la conversion, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que l'autre me convertit aussi, il m'apporte aussi, il me convertit. Et si ce que je crois, Jésus est Seigneur, il n'est pas le Seigneur d'une culture, il se trouve déjà, c'est ce qu'on appelle, vous savez, les semences du Verbe, ailleurs, chez l'autre. C'est-à-dire que l'autre à qui je vais annoncer le nom de Jésus-Christ va me faire connaître des choses nouvelles sur Jésus-Christ et me convertir donc à ce qu'il m'apprend du Christ. Les missions qui sont faites de la manière violente, où on a imposé l'évangile en pensant qu'il était incompatible avec les valeurs d'une culture, c'est toujours des missions qui ne sont pas fécondes. Je ne dis pas que ça ne marche pas, parce que malheureusement, ça peut avoir de l'effet. Mais voilà, c'est ce que je répondrai à la question que vous avez.
Merci, frère Gilles.
Frère
Bon.
Gilles, est-ce que je peux
Oui.
dire le contraire de ce que vous avez
Bien
dit?
sûr. Merci.
Il me semble que ce n'est pas parce qu'on considère que une culture est supérieure à une autre. Pour moi, une culture qui est supérieure à une autre, c'est une culture où le faible à sa place et est respectée, et où c'est pas la force qui est promue, ou une culture où il y a des sacrifices d'enfants, par exemple, voilà. Ce n'est pas parce qu'on dit cela que personnellement on commet un péché d'orgueil. On peut dire j'ai la chance d'avoir reçu cet héritage et cette chance, je désire la partager, d'une part. Et d'autre part, Jésus n'a pas promu une culture, c'est vrai, mais il a attendu pour s'incarner que l'intelligence soit un peu affinée du côté de l'amour de la vérité avec les Grecs et les Latins. De savoir ce que c'est qu'une personne humaine, c'est quelque chose d'être une personne humaine, c'est plus important que d'être grec ou barbare. Homère a commencé à faire entrevoir fortement cela. Donc il y a quand même un héritage, une chance, une découverte de l'intelligence avec la lumière de Dieu, de la vérité. Qu'il y a quelque chose de formidable et que je trouve supérieur à des civilisations ou c'est pas des cultures, si on peut appeler ça culture, où, je sais pas, on sacrifie les enfants, où la femme est inférieure à l'homme, ou enfin tout ce où je sais pas, il y a pas de bien commun, enfin bref, voilà. Voilà, j'ai fini.
Oui, alors je pense que, enfin, je sais pas, peut-être avant de, peut-être que si on peut, on prend un petit peu plus de temps.
Oui, c'est pas grave.
Peut-être que avant que moi-même j'essaie de répondre, peut-être que d'autres veulent. Merci beaucoup, Dominique, c'est très intéressant ce que vous avez dit. Est-ce que d'autres veulent, alors sans quitter la question, hein, parce qu'il faut bien, mais dire votre avis, parce que vous avez entendu.
Je crois qu'on m'attend à votre réponse. Ça ne
Ça ne sera que ma réponse, hein, parce qu'on peut en avoir envisagé les.
À partir du moment où on dit que le Christ est le Fils de Dieu et qu'on veut donc transporter ce message, on s'attend, parfois on s'attend à une opposition.
Dans l'effort pour convaincre.
On s'attend à une opposition, puisqu'on sait que la culture de l'autre ne partage pas cette vérité. Bon. Alors, la violence, certainement pas, mais est-ce que c'est pas violent de l'affirmer? Est-ce que la violence de l'affirmation n'est pas déjà une violence? Et on ne peut pas faire autrement que de passer par cette violence, parce que, étant donné que c'est ce qui représente le cœur de notre vie, on ne peut pas. C'est pas un péché d'orgueil, mais c'est simplement parce qu'à ce moment-là, on a le sentiment de ne pas être fidèle à l'amour de Dieu. Mais c'est la réception que l'autre en a qui engendre une espèce de violence. Comment faire pour que l'autre reçoive en toute plénitude, en toute harmonie, en toute. Le message que je lui envoie qui très certainement le choque.
D'autres réactions?
Peut-être de la manière dont tu nous remets ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une réciprocité? Est-ce qu'on a l'accueil de ce que l'autre nous apporte aussi? Il peut nous apporter quelque chose de bien.
Oui, mais c'est ça. C'est ça qui était tout à l'heure intéressant, c'était de dire que en accueillant l'autre, je
C'est
recevais
réciproque.
aussi de l'autre des valeurs, peut-être auxquelles je ne pensais pas. Mais si il peut y avoir en effet cet échange, je trouve ça extraordinaire. Mais majoritairement, on connaît des cas dans lesquels cette réception n'existe pas.
Bon. Je pense que le christianisme a transformé l'humanité dans sa vie sociale, qu'il a inspiré des cultures. Et je pense que le christianisme est la cause de progrès humain. Ce qui veut dire que je crois en un certain progrès humain, je pense que ça a du sens. Voilà. Et, mais malheureusement, on ne peut pas en rester là. C'est-à-dire que le christianisme, à chaque génération, met nos sociétés devant des choix de plus en plus fondamentaux, de plus en plus radicaux. Notre culture, concrètement, c'est quoi? Notre société, concrètement, c'est quoi? Notre société française, par exemple, on va en rester là. Qu'est-ce que au XIXe siècle, à la grande époque des missions, nous avons apporté à nos frères et nos sœurs d'Asie ou d'Afrique. Ou... Bien sûr, on leur a porté l'Évangile et au prix du sang des martyrs. On leur a aussi apporté l'athéisme. Bien sûr, il y avait de la pratique de l'esclavage. Et de l'esclavage des enfants. Mais peut-on oublier que la version la plus atroce de l'esclavage est la traite transatlantique, qui est un esclavage non pas musulman, mais qui est un esclavage justifié chrétiennement. C'est-à-dire que nos cultures, bien sûr, enfin, les cultures concrètement prises, même celles qui sont, qui ont, qui ont comment dire, qui ont été fortement marqués par le christianisme, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que, globalement prise, elle soit supérieure à d'autres cultures. En tout cas, je suis sûr que les autres cultures ont quelque chose à leur apporter. Voilà. Et que, mais là, je pense que nous sommes tous d'accord, tout le monde d'accord, rien ne justifie en aucun cas. La violence ou l'usage de la force, ça c'est notre foi catholique qui le dit, je pense qu'on est tous d'accord, hein, dans la communication du message de l'Évangile qui en tous les cas n'est pas c'est pas une l'Évangile c'est pas enfin alors là on peut là aussi en discuter hein, mais l'Évangile c'est pas une doctrine sociale, c'est pas une culture. Je pense que, évidemment, ça va changer les cultures, ça va changer en bien, ça introduit de grands principes qui vont contre des pratiques, des conduites déshumanisantes, mais ça ne signifie pas que les cultures réelles, même inspirées par le christianisme, soient de fait supérieures aux autres. Et on peut même craindre que lorsque, ayant rencontré l'Évangile, elle développe aussi conjointement le refus de l'évangile, parce que l'évangile, il a toujours affaire à la liberté de l'homme. Mais encore une fois, je pense, est-ce qu'on ne voit pas quand même que une culture imprégnée de christianisme, comme l'est la culture européenne, a apporté le meilleur, mais parfois aussi le pire, hier comme aujourd'hui. Par exemple, quand nous parlons de la contemplation, le chanoine allemand bataille pour nous faire comprendre que la finalité de la vie humaine est une finalité contemplative. Il le fait contre quoi? Il le fait contre une société hyper technicisée où l'homme pense trouver son épanouissement dans ce qu'il produit et non pas dans ce qu'il aime et connaît. Mais ça, c'est une difficulté d'occidental. Ce n'est pas une difficulté que vous allez trouver. Si on est bien convaincu que la finalité de la vie humaine, c'est une finalité contemplative, ces Indiens qui, au XVIIe siècle, ont traversé le continent à la rencontre des Jésuites parce qu'on leur avait dit qu'ils savaient comment prier, est-ce que, humainement, je veux dire, ils étaient inférieurs, ou dans leur culture, ils étaient inférieurs à celle de Voltaire à la même époque. Je veux pas diaboliser Voltaire. Hein. Mais vous voyez, moi, alors, voilà, en tout cas, je pense que je dirais que, effectivement, le christianisme a des. Bien sûr, il a apporté à nos cultures et à nos sociétés beaucoup de choses. Mais il ne nous autorise pas à affirmer aujourd'hui la supériorité d'une culture par rapport à une autre culture. Alors vous avez fait allusion à des pratiques comme le sacrifice des enfants. Il faudrait discuter. Si je vous ai parlé de l'esclavage, voilà, c'est sûr qu'il y a que le christianisme a rendu. On peut dire hein, que le christianisme a c'est la thèse de René Girard, hein, que le christianisme a dénoncé le meurtre de l'innocent comme injuste, alors que toute société hors la société chrétienne ou judéo-chrétienne se fonde sur ce meurtre. Donc il y a des anthropologues qui iraient plutôt dans ce sens-là. Mais alors donc il faudrait reparcourir l'histoire, avoir en tout cas un jugement très, très nuancé et en tout cas, aujourd'hui, je pense que les choses ne se présentent pas en ces termes. Et je dirais que, parce que c'est la question dont on est parti, hein, merci Isabelle de l'avoir posée, mais la mission, c'est pas, à mon sens, l'annonce d'une culture, c'est l'annonce de notre salut en Jésus-Christ et de la Sainte Trinité. C'est-à-dire du salut de Jésus-Christ et du Dieu de Jésus-Christ, c'est ça que j'annonce. Et il faut que je parte de là, parce que si je me mets à mettre en avant la défense d'une culture, il se peut très bien que ce soit pas aussi pur que ce que je pense défendre quand je veux défendre une culture. Voilà, ça c'est ma position, mais c'est assez. Bon,
de la mission, ce qui est, enfin, les caractéristiques christianistes, c'est précisément cette dimension missionnaire. Bien, je ne sais pas si on prend le terme de religion, je ne sais pas s'il existe beaucoup de religions dans le monde où cette dimension missionnaire est aussi forte et aussi prégnante. Si, alors, il se trouve que, historiquement parlant, le christianisme a pris la figure de l'Occident. Ça, c'est l'histoire qui nous permet de le comprendre. Mais rien ne prédéterminait le christianisme, enfin, en fait, à prendre la figure de l'Occident. Il se trouve qu'il l'a prise, mais ce n'était pas inscrit dans la nature du christianisme. Mais par contre, ce qui est inscrit dans la nature du christianisme, c'est la nature missionnaire. Et c'est ça qui fait qu'en définitive, ça fait partie de l'histoire de l'Occident, que l'Occident, c'est, comment dire, comment dire, s'est développé dans d'autres parties du monde. Enfin, je veux dire, ça vient un rapport avec le christianisme. Alors, il en a par ailleurs déformé un certain nombre de traits. Enfin, je veux dire, cet être missionnaire a pris des traits qui sont parfois très peu recommandables, mais il n'en reste pas moins que cette dimension missionnaire, elle est toujours présente au sein même du christianisme. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Je vais vous donner un seul exemple. Ce n'est pas un exemple que j'ai vécu, c'est un exemple que je lis. Je lis un ouvrage d'un romancier espagnol qui s'appelle Le fou de Dieu au bout du monde. Ce romancier s'appelle Javier Cercas. En fait, il raconte un voyage du pape François en Mongolie. Hein, le pape François était en Mongolie, il aimait beaucoup aller dans les pays périphériques. Ben, il va en Mongolie parce que là, il y a des missionnaires catholiques qui sont très très peu. Hein, on parle à l'époque actuelle. Hein, et donc, le romancier, ben, il s'entretient avec des missionnaires catholiques en Mongolie. Et ce que lui montrent ces missionnaires, ce sont surtout des femmes d'ailleurs, c'est précisément en quoi consiste leur activité de missionnaire. Donc c'est annoncer la bonne nouvelle. Après, comment annonce-t-elle la bonne nouvelle? Bah, tout simplement en se mettant au service des gens qui vivent dans ce pays-là. Et c'est comme ça qu'elles annoncent la bonne nouvelle, disent-elles. Et il n'y a aucune volonté de convertir en tant que telle, mais il y a une volonté de porter la bonne nouvelle. Ça,
Donc,
c'est propre au
oui,
christianisme.
moi je pense que annoncer l'évangile, c'est appeler à la conversion. Mais ce n'est pas appeler à rejoindre une culture, mais c'est d'abord révéler le Christ. Et donc, c'est la conviction que le Christ a quelque chose à dire et apporter à tout être humain. La conversion, ça n'est pas. On ne peut pas le réduire à recevoir le baptême, mais c'est aussi une conversion morale, effectivement. Hein. Je pense donc que la mission, moi je ne la. Et c'est pas ce que vous faites non plus. Hein, la mission, ça doit se vivre, et c'est ce que. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est important, à mon sens, d'abord sur le mode du témoignage, un témoignage qui est un témoignage dans le dialogue et le service, mais pour ouvrir le cœur au mystère même de la vie pour nous, hein, qui est le mystère de la Trinité et du salut. Mais que le christianisme soit par nature missionnaire, ça c'est vrai, mais c'est justement parce que je dirais. Il faut être deux pour aimer et que l'amour ne se possède vraiment que lorsqu'il se donne, lorsqu'il se communique. Et c'est aussi un reflet du mystère de la Trinité. Et notre baptême fait de nous des missionnaires, hein, des disciples et des disciples missionnaires. Ça, j'en suis convaincu. Mais il ne s'agit pas de. Il s'agit. Nous sommes envoyés aux autres pour leur faire savoir la grande nouvelle du salut que nous apporte Jésus-Christ, pas pour leur imposer nos manières de voir et de vivre, même si l'Évangile, par ailleurs, va transformer nos manières de voir et de vivre. Voilà. Mais c'est. Or,
Ça
ça a
sera jamais
souvent été.
personnel.
Pardon?
Ça sera jamais personnel, pas
Oui,
imposé.
oui. Mais je pense, vous voyez, parce que dans l'histoire des missions, le drame de l'histoire des missions, c'est qu'effectivement, elles ont été liées à l'évangélisation, mais c'est plutôt l'évangélisation qui a été dans les bagages de commerçants et de conquérants. Et le premier élan missionnaire au XVe au XVIe siècle, il y a la croisade, c'est-à-dire qu'on partait dans l'idée qu'on allait, en contournant les pays musulmans, pouvoir réduire l'islam, donc il y a une perspective à l'origine qui est une perspective de guerre et qui est une perspective aussi d'expansionniste, d'empire expansionniste pour des raisons. Donc c'est vrai que moi je lirais pas l'expansion de l'Occident de façon trop étroite à la nature missionnaire du christianisme.
Non, il se trouve que historiquement parlant, la culture missionnaire du christianisme a pris décisionnellement des âges de l'Occident. Enfin, je veux dire, personne n'est pas mieux initié
Oui,
pour rien, mais c'est ainsi,
ça
je veux
c'est
dire,
vrai.
on doit le
C'est vrai.
constater, quoi.
Oui.
L'islam a été très conquérant aussi. Enfin, c'était
Non,
pas. Il n'y a pas que le christianisme.
oui.
L'islam a
Pas
été
que l'Occident,
très conquérant aussi. Et puis, sinon, ma réaction serait de dire la mission. En fait, il y a différentes formes de mission. Il n'y a pas une forme unique. Quand on pense à Charles de Foucault, c'était une forme de mission, présence, témoignage. Il y a eu des missionnaires qui partaient totalement indépendamment des questions commerciales ou autres, puisque
C'est comme
dans
dire
des îles du
l'Afrique.
Pacifique, ils se faisaient virer ensuite par les commerçants qui arrivaient en disant non, c'est pas ça ce qu'on veut. Enfin, donc, il y a vraiment différentes formes et il y a des formes acceptables et pas acceptables. Voilà, mais le respect de l'autre est le point primordial.
J'aurais une question, enfin, peut-être s'il n'est pas trop tard.
Dernière question.
D'accord, je vais être rapide. Tout à l'heure, alors d'abord, bonsoir Fragile et merci beaucoup et bonsoir à tous et à toutes. Si j'ai bien compris, tout à l'heure, Fragile, vous avez dit Dieu nous aime pour ce qu'il nous donne. Et est-ce que ça peut signifier aussi que Dieu se nourrit de l'homme, en fait?
J'ai peut-être dit, mais c'est que ma langue a fourché, ce qui est tout à fait possible, que Dieu nous aime pour ce qu'il nous donne. Comme ça, je ne le dirai pas. C'est-à-dire que je pense
J'ai
que
pas bien compris là.
je pense que ce que j'ai voulu dire, en tout cas, c'est que Dieu nous aime pour ce que nous sommes.
D'accord. Et
Dieu
c'était
nous
peut-être ça que
aime.
vous avez dit, et moi j'ai. Voilà.
Dieu nous aime pour
D'accord.
ce que nous sommes. Mais là, comme malheureusement l'enregistrement a marché aujourd'hui, peut-être qu'on va s'en refaire.
Pour aller vérifier. Pour aller
Oui, tout à
vérifier.
fait.
Je pense que tout le monde va
C'est
aller
très clair.
chercher.
C'est très clair comme ça fait.
Voilà. Mais voilà, je pense que. Oui, mais d'une certaine manière, c'est juste, puisqu'il nous donne tout ce que nous sommes, on peut dire que Dieu nous aime pour ce qu'il nous donne, parce que voilà, tout ce que nous sommes, il nous le donne, quoi. Hein, ça c'est. Mais votre question, c'était pas ça. Votre question, c'était surtout, est-ce qu'on peut dire que Dieu se nourrit? Alors c'est l'Évangile qui dit ça, puisque Jésus dit j'ai soif et puisque on a tout dans l'Évangile de Jean nous fait comprendre que il a soif de notre foi. Hein, c'est comme ça qu'Augustin commente l'Évangile. Donc je pense que c'est tout à fait juste de dire que Dieu se nourrit de l'homme en ce sens que il trouve sa joie dans le bonheur de l'homme. Qu'il le désire, qu'il l'aime, il aime l'homme de l'amour dont il s'aime lui-même. Ce qui fait que l'idée d'un Dieu qui se nourrit de l'homme est une image quand même un peu bancale, c'est deux choses. La première chose, c'est que ça peut nous faire retourner comment dire, à l'image des antiques sacrifices où de fait Dieu se nourrissait de la nourriture que l'homme lui apportait, c'est-à-dire l'idée que d'une manière ou d'une autre, Dieu aurait besoin de l'homme, ce qui n'est pas vrai. Et puis ensuite, de fait, comme je disais, Dieu ne reçoit aucun agrandissement de la part de l'homme. Hein, alors que nous, quand nous nous nourrissons, c'est pour grandir, hein, pour maintenir l'être et pour grandir, ce qui n'est pas le cas de Dieu. Mais parler d'un désir de l'homme et d'une joie que Dieu trouve en l'homme, ça c'est très évangélique. C'est très évangélique. Quand Dieu dit je trouve en toi ma complaisance, hein, il le dit de Jésus et il le dit de nous en Jésus, il l'a dit du serviteur souffrant. Et donc c'est juste de dire ça. Maintenant, il faut essayer de le comprendre voilà, sans anthropomorphisme et sans, d'une certaine manière, diminuer la grandeur, la bonté de Dieu de cette manière-là. Mais c'est très juste de dire que Dieu se nourrit de l'homme, d'une certaine manière, en comprenant bien.
Merci beaucoup, frère Gilles. Merci.
Merci beaucoup, frère Gilles. Écoutez, vu l'heure, et merci à tous, on va arrêter là, vu l'heure.